Aristote, Physique, traduction Jules Barthélemy Saint-Hilaire, livre 3, chapitre 7. Sommaire. Suite de la théorie de l'infini. Il n'y a pas de corps perceptible à nos sens qui soit infini. Raison logique, raison physique. Aucun des éléments ne peut être infini. Opinion d'Héraclite qui croit que tout a été jadis du feu, de l'immobilité et du mouvement de l'infini. Opinion d'Anaxagore réfutée. Manière d'entendre l'immobilité de l'infini. Paragraphe 1. Peut-être faudrait-il encore généraliser davantage cette étude, puisque l'infini se rencontre non seulement dans la nature, mais aussi dans les mathématiques, dans les choses de l'entendement et dans celles qui n'ont pas de grandeur. Mais quant à nous, ne nous occupant que des choses sensibles et des sujets que nous traitons spécialement ici, nous nous demanderons si parmi les choses que perçoivent nos sens, il n'y a pas un corps dont le développement soit infini. Paragraphe 2. En se bornant à des considérations logiques, voici les arguments qui donneraient à croire que ce corps n'existe pas. Paragraphe 3. Si en effet, on peut définir le corps, ce qui est limité par une surface, un corps infini n'est plus dès lors possible, ni pour la raison, ni pour les sens. Paragraphe 4. Mais le nombre lui-même des choses n'est pas infini, de même qu'il est abstrait. Le nombre n'est que ce qui est numérable ou ce qui a un nombre. Or, puisqu'on peut toujours nombrer le numérable, il s'ensuivrait qu'on pourrait aussi parcourir l'infini. Paragraphe 5. Mais physiquement, les considérations sont encore plus frappantes. Paragraphe 6. Et elles démontrent que le corps infini ne peut être ni composé ni simple. Paragraphe 7. Ainsi, le corps infini ne peut pas être composé si l'on suppose que ses éléments sont en nombre fini, car il faut nécessairement que les éléments contraires soient toujours plus d'un. Et comme ils s'équilibrent sans cesse, un seul d'entre eux ne peut être infini. Si, en effet, la puissance qui est dans un seul corps est inférieure en quoi que ce soit à celle qui est dans l'autre, et si, par exemple, le feu est limité et l'air infini, et que le feu suffisamment multiplié mais toujours en ayant un nombre déterminé, l'emporte en puissance sur une égale quantité d'air, évidemment, l'infini n'en surpassera pas moins toujours le fini qu'il annulera. Paragraphe 8. Mais il n'est pas plus possible que chaque élément du corps sensible infini soit infini, car le corps est ce qui a une dimension en tous sens, et l'infini et ce qui a des dimensions infinies. Par conséquent, le corps infini aura des dimensions infinies dans tous les sens possibles. Paragraphe 9. Il ne se peut pas non plus que le corps sensible infini soit un et simple. Il n'est pas possible ni qu'il soit ce qui est en dehors des éléments, comme le disent certains philosophes, qui les en font sortir et naître, ni même qu'il soit du tout. Paragraphe 10. Car il y a des philosophes qui conçoivent l'infini de cette façon, sans vouloir le placer dans l'air ou le feu, de peur de détruire les autres éléments par celui d'entre eux qu'on ferait infini. Les éléments ont en effet, les uns à l'égard des autres, une opposition qui en fait des contraires. Ainsi, l'air est froid, L'eau est humide, le feu est chaud, et si l'un de ces éléments était infini, les autres seraient à l'instant détruits par lui. C'est pour cela que nos philosophes font du principe d'où viennent les éléments quelque chose de différent des éléments eux-mêmes. Paragraphe 11. Mais il est impossible qu'il existe un tel corps, non pas seulement en tant qu'infini, car on peut dire de lui à cet égard précisément ce qu'on dirait tout aussi bien de l'air, de l'eau ou de tout autre élément, mais parce qu'il ne peut pas y avoir de corps sensible de ce genre en dehors de ce qu'on appelle les éléments. Tout en effet se résout en définitive dans l'élément d'où il vient, de telle sorte qu'il faudrait ici un élément autre que l'air, le feu, la terre et l'eau, mais évidemment, il n'y en a pas. Paragraphe 12. Mais ni le feu, ni aucun des autres éléments ne peut pas non plus du tout être infini, car absolument parlant, et à moins que l'un d'eux ne soit infini, il est impossible que l'univers, fût-il même limité, soit ou devienne un seul de ces éléments, uniquement suivant l'opinion d'Héraclite, qui prétend que jadis tout a été feu. Paragraphe 13. Ce même raisonnement peut s'appliquer à ce principe unique que les physiciens imaginent en dehors des éléments ordinaires, attendu que tout changement se fait du contraire au contraire, et par exemple du chaud au froid. Paragraphe 14. C'est d'après ce qui précède qu'il faut voir d'une manière générale s'il est possible ou impossible qu'il y ait un corps sensible infini. Paragraphe 15. Mais voici maintenant des raisons qui semblent démontrer qu'il est absolument impossible qu'il y ait un corps sensible infini. D'après les lois de la nature, tout corps sensible est dans un lieu. Or, il y a un lieu propre pour chaque corps, et ce lieu est le même pour la partie que pour le tout. Par exemple, pour toute la terre en masse et pour une seule motte de terre, pour le feu et pour une étincelle. Paragraphe 16. Par conséquent, si la partie est homogène au tout, ou elle sera éternellement immobile, ou elle sera éternellement en mouvement. Or, cela est cependant tout à fait impossible. Car pourquoi le mouvement irait-il plutôt en bas qu'en haut, ou dans tout autre sens? Je prends l'exemple de la motte de terre et je demande: dans quel lieu la portera le mouvement? Ou dans quel lieu restera-t-elle immobile, si le lieu du corps qui lui est homogène est supposé infini? Remplira-t-elle tout l'espace? Mais comment cela se pourrait-il? Quel sera son repos et son mouvement? Où seront-ils l'un et l'autre? Sera-t-elle partout en repos? Alors, elle ne sera jamais en mouvement. Ou bien, son mouvement sera-t-il partout? Mais alors, elle ne sera jamais en repos. Paragraphe 17. Si la partie est d'une autre espèce que le tout, les lieux où seront le tout et la partie seront également différents. Paragraphe 18. Et d'abord, le corps que forme le tout ne peut plus être un et avoir d'unité, si ce n'est par la contiguïté des parties. Paragraphe 19. Ensuite, toutes les parties dont il se compose seront ou finies ou infinies en espèces. Paragraphe 20. Or, il n'est pas possible qu'elles soient finies, car si le tout est infini, il faut que des parties qui le forment, les unes soient infinies et que les autres ne le soient pas. le feu ou l'eau, par exemple. Et ce serait là précisément la destruction des contraires, ainsi qu'on l'a dit plus haut. Paragraphe 21. Voilà pourquoi aucun des philosophes qui ont traité de la nature n'ont jamais imaginé que l'un et l'infini puissent être le feu ou la terre. Mais ils ont supposé que c'était ou l'eau ou l'air ou le corps intermédiaire entre ces deux éléments. C'est que le lieu de l'un et de l'autre, de la terre et du feu, est évidemment déterminé, et que ces deux éléments se dirigent, celui-ci en haut et l'autre en bas. Paragraphe 22. Si les parties sont infinies et simples, les lieux sont par suite infinis aussi, et les éléments sont infinis également. Mais si c'est là une impossibilité, et si les lieux sont eux-mêmes en nombre fini, nécessairement le tout sera fini comme eux, car il est impossible que le lieu et le corps ne soient pas conformes et égaux l'un à l'autre. Ainsi, d'une part, le lieu tout entier n'est pas plus grand que le corps ne peut l'être en même temps que lui, puisque, en même temps, le corps cesserait d'être infini. Et d'autre part, le corps ne peut être plus grand que le lieu, car où il y aura du vide, où il y aura un corps, qui ne pourra plus être naturellement en aucun lieu. Paragraphe 23. Anaxagore se trompe étrangement sur l'immobilité de l'infini quand il prétend que l'infini se fixe et se soutient lui-même, et cela parce qu'il existe en lui seul, attendu que rien ne peut le contenir. Paragraphe 24. On croirait à l'entendre qu'il suffit qu'une chose soit dans un lieu quelconque pour que ça soit sa nature d'y être. Mais cela n'est pas exact, car une chose peut être par force dans un certain lieu sans être là où sa nature voudrait qu'elle fût. Paragraphe 25. Si donc, c'est surtout de l'ensemble des choses de l'univers qu'on doit dire qu'il n'est pas mis en mouvement, puisque de toute nécessité, ce qui ne s'appuie que sur soi-même et n'existe par soi seul est absolument immobile, il faudrait nous dire pourquoi il n'est pas dans sa nature de se mouvoir. Il ne peut suffire ici de se débarrasser de la difficulté par cette simple assertion qu'il en est ainsi. Car tout autre corps quelconque peut n'être pas davantage en mouvement, bien que, par sa nature, il soit fait pour se mouvoir. Ainsi, la Terre n'a pas de mouvement de translation, et fût-elle infinie, elle ne serait pas pour cela déplacée du milieu et du centre. Elle resterait au milieu, non pas seulement parce qu'il n'y aurait point de lieu différent où elle pourrait être portée, mais de plus, parce qu'il est dans sa nature de demeurer au centre et de ne point aller ailleurs. Cependant, on pourrait dire aussi de la Terre qu'elle s'appuie et se soutient elle-même. Si donc, ce n'est pas parce que la Terre est infinie qu'elle reste ainsi au centre, mais à cause de sa pesanteur, et parce que ce qui est pesant reste au milieu comme la Terre y reste, on peut dire que l'infini reste également en lui-même par quelque autre chose. Et ce n'est pas non plus du tout parce qu'il est infini qu'il se soutient lui-même. Paragraphe 26. Il est en même temps évident que d'après les théories d'Anaxagore, il faudrait aussi qu'une partie quelconque de l'infini fût en repos comme lui. Car de même que l'infini se soutenant lui-même se repose en soi. De même, si on en prend une partie quelconque, il faut que cette partie soit également en repos sur elle-même. Car les lieux sont identiques spécifiquement pour le tout et pour la partie. Et par exemple, le lieu de la terre prise en masse et celui d'une simple motte de terre sont également en bas. Le lieu du feu entier et celui d'une étincelle sont en haut. Par conséquent, si le lieu de l'infini est d'être en soi, ce sera aussi le lieu de la partie qui aura également son repos en elle-même. Paragraphe 27. Mais on voit sans la moindre peine qu'il est absolument impossible de dire à la fois et qu'il y a un corps sensible infini et que les corps ont un lieu propre. Tout corps sensible est ou pesant ou léger. S'il est pesant, il a sa tendance naturelle vers le centre. S'il est léger, il l'a en haut. Or, l'infini aussi est soumis nécessairement à cette condition. Mais il est impossible ni que l'infini tout entier ait indifféremment l'une ou l'autre de ses propriétés, ni que dans ses moitiés, l'infini les ait toutes les deux. Comment en effet diviser l'infini? Et comment une partie de l'infini sera-t-elle en bas et l'autre en haut? En d'autres termes, comment l'une sera-t-elle à l'extrémité tandis que l'autre serait au centre? Paragraphe 28. De plus, tout corps perceptible à nos sens est dans un lieu. Or, les espèces et les différences du lieu sont le haut et le bas, le devant et le derrière, la droite et la gauche, et ces distinctions ne se rapportent pas seulement à nous et à la position respective des choses. Elles se retrouvent encore également déterminées dans l'univers lui-même, dans le tout. Or, il est bien impossible qu'elle se rencontre dans l'infini. Si donc le lieu ne peut pas absolument être infini et que tout corps soit dans un lieu, il est impossible également qu'un corps sensible quelconque soit infini. Paragraphe 29. Mais ce qui est quelque part est dans un lieu, et ce qui est dans un lieu est quelque part. Si donc l'infini ne peut pas non plus être une certaine quantité, car la quantité est quelque chose de déterminé, comme par exemple 2 coudées, 3 coudées, expression qui toute ne signifie que la quantité. De même, l'infini ne peut pas être davantage ce qui est dans le lieu, parce que ce qui est dans un lieu est quelque part, c'est-à-dire soit en haut, soit en bas, soit dans une autre des 6 positions. Or, chacune de ces positions est une limite d'une certaine espèce. Paragraphe 30. En résumé, toute cette discussion prouve évidemment qu'il n'y a pas de corps actuellement perceptible à nos sens qui soit infini.